Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour parler de l'ENA, avec un documentaire formidable qui est consacré à cette grande école qui va disparaître. On est pile dans l'actualité, on en parle avec les deux journalistes qui ont réalisé ce documentaire. Et puis à 10h30, les livres avec Gérard Collard. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bonjour, on va parler de l'ENA aujourd'hui, qui est dans l'actualité. Et je ne sais pas si les auteurs, les deux journalistes qui sont avec nous avaient imaginé cette actualité pour la sortie de leur documentaire qui va passer sur Public Sénat samedi soir à 21h. Évidemment, il y a beaucoup de replays. Émilie Lançon, bonjour, vous êtes journaliste et réalisatrice. Et Alix Etourneau, bonjour, vous êtes journaliste et écrivaine et vous avez réalisé l'ENA, pourquoi tant de haine ? On va vous revenir sur l'histoire de cette grande école dont on ne sait finalement pas grand-chose. On a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de clichés. On va en reparler avec vous dans un instant. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il supprimait l'ENA. C'est bien le mot qu'il a employé hier. Donc on va en reparler dans un tout petit instant avec vous. Gilles, une question qui est assez loin de l'ENA aujourd'hui.
Ils n'ont pas fait l'ENA, je vous confie. Hier, il y avait une émission hommage qui a cartonné sur C8, sur Loft Story. Mais on pourrait imaginer, on réunit tous les énarques dans une maison pendant 3 mois et puis ils nous refont la France. Et donc hier, ça a vraiment, vraiment marché et tout le monde a été un peu nostalgique de voir ces images et cette époque de télévision. Et donc, on s'est demandé si vous aviez envie d'avoir le Loft Story qui reviendrait à la télévision. Vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio pour 20% non contre 80%. Je suis surpris.
Non, je pense que ça aurait changé. Vous en souvenez du Loft ou pas
très
à l'époque
bien, c'est ma génération. Je l'ai regardé, évidemment. Ouais. J'étais devant les aventures de Loana. Je les ai suivies.
Tous suivis, mais c'était très nouveau à l'époque. Émilie aussi.
Je m'en souviens.
Mais c'était nouveau et c'était, je pense, beaucoup plus spontané que ça ne l'est devenu aujourd'hui où on sent.
Enfin, c'était déjà nouveau de les revoir hier, de les voir tous.
Je n'ai pas regardé pour tout vous dire. J'ai regardé le doc sur l'ENA.
J'ai beaucoup aimé l'émission.
Pas la même chose. Allez, le zapping, rapidement.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Et oui, d'habitude, c'est en mai, mais les seins de glace sont en avril. Le coup de gel de ces derniers jours a été fatal pour nos agriculteurs. Évidemment, sur tous les médias, le désespoir des agriculteurs, comme hier, Joris, qui était sur BFM, qui a tout perdu.
On est sur 100% de perte. 100%. Pour pas de résultat, quoi.
Joris ne trouve plus les mots. Dans son exploitation d'une trentaine d'hectares, tous les abricots, cerises et poires qu'il produit ont été dévastés par une chute brutale des températures.
On voit que l'épiderme est complètement brûlé. Au toucher, c'est complètement mou. Et quand on l'ouvre, c'est complètement marron à l'intérieur. Le fruit est complètement mort. Qui accepterait de dire « cette nuit, il a fait froid, du coup, j'aurais pas de revenus pendant un an ».
Bruno Le Maire, qui était invité de l'émission et de la matinale de Patrick Roger, a annoncé qu'il y aurait des aides pour les agriculteurs. Une autre colère, celle d'Olivier Falorni. Il était furieux hier contre l'obstruction sur son projet de loi sur l'euthanasie, qui finalement n'est pas passé, projet de loi qui a été bloqué par les amendements.
Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici, souverainement. Voilà ce que c'est, voilà l'image que vous donnez.
Et oui, une institution bloquée, Valérie. Oui. Alors, on va en parler avec vous, mesdames. L'annonce surprise du président Emmanuel Macron, la suppression de l'ENA. Et sur CNews, Éric Zemmour a trouvé ça minable.
Oui, il y a un blocage entre le sommet et le pays, mais c'est pas parce que l'ENA existe. C'est là où il y a une, j'allais dire gentiment, une incompréhension. La vérité, c'est qu'il y a une embrouille, tout simplement. Il y a un coup politique absolument minable. Emmanuel Macron a réagi, vous l'avez dit, après la révolte des Gilets jaunes. Et il leur a dit, on va supprimer l'ENA. Et les Gilets jaunes n'avaient rien demandé de tel.
Alors ?
Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'au fil du temps, et ça on le comprend bien dans notre film, parce que nous on raconte l'histoire de l'ENA, de sa création en 1945 jusqu'à aujourd'hui finalement. Et on voit comment, au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était une école idéale, très républicaine. qui a été créée aussi en... Alors, c'était un vieux rêve depuis longtemps, mais elle a été créée en rupture après Vichy, quand les hauts fonctionnaires ont soutenu le maréchal Pétain. Et au fil du temps, il s'est produit un glissement et c'est devenu une école bouc émissaire à qui on reproche tout.
Oui, c'est ça, cette école que les Français adorent détester. C'est ainsi que commence votre documentaire. Vous avez fini ou pas?
Non, j'ai deux autres sons.
Ça aurait été bien de le mettre à la fin.
mais j'en ai d'autres, oui. Alors c'est pour ça.
Je voudrais juste réagir sur les propos d'Éric Zemmour, qu'en règle générale, je ne partage pas. Et je ne dirais pas que c'est minable, je dirais que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste, d'abord pour l'ENA, qui n'a pas mérité ça, et ensuite pour son directeur, Patrick Gérard, qui est quelqu'un qui s'est démené depuis qu'il a été nommé pour transformer en fait la formation au sein même de l'ENA, c'est-à-dire la marge de manœuvre qu'il avait lui, pour la faire évoluer. Et je pense que les jeunes énarques qui sortent aujourd'hui des années Patrick Gérard ne sont en rien ces énarques coupés des réalités qu'on a pu voir il y a 20 ans. Et beaucoup de gens qui parlent de l'ENA, c'est des gens qui ont fait leur scolarité il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'est des cinquantenaires et qui ne savent pas forcément ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'ENA. Et quand j'entends Nathalie Loiseau, qui est ancienne directrice de l'ENA...
Vous allez aller sans fin. Alors, je vous propose d'écouter Quotidien et ressortir la boîte à archives, ce qu'ils ont fait hier. Évidemment, Nathalie Loiseau en a fait des frais. Quand elle était directrice de l'ENA en 2016, elle était pour. En 2021, elle est contre. Vous pourrez réagir à ce son.
Ce jour-là, en plateau, Nathalie Loiseau, alors directrice de l'ENA, avait dit ça.
Quand on ne sait pas quoi dire, on dit tiens, je vais taper un peu sur l'ENA, comme ça. C'est l'école qui forme les hauts fonctionnaires, donc on attend beaucoup et on critique beaucoup en même temps.
La même ce matin.
Ça fait des années qu'on sait qu'à l'ENA, il y a des fils de profs. C'est ça la réalité. C'est une espèce de délit d'initié culturel. Je suis favorable à un grand coup de pied dans la fourmilière.
Incroyable, hein?
Elle est favorable à un grand coup de pied dans la fourmilière. Au passage, elle traite quand même ses anciens élèves de fourmis.
Oui.
Je les laisserai apprécier la formule. La question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était directrice de l'ENA? J'ai pas l'impression qu'elle ait, en tout cas... Évidemment, les directeurs de l'ENA ont une marge de manœuvre limitée. C'est pas eux qui vont modifier le concours d'accès et c'est pas eux qui vont modifier le concours de sortie. Mais il reste tout le milieu, il reste la formation. Et déjà, à l'époque de Nathalie Loiseau, il y avait des propositions sur la table pour ouvrir la formation, pour faire en sorte qu'elle soit plus proche du monde réel. C'est quand même Patrick Gérard qui a mis les élèves en stage dans des PME, c'est pas Nathalie Loiseau.
Oui.
Après, il faut quand même pas nier les choses. Il y a des problèmes à l'ENA. Tout n'est pas fantasmé. Il y a une endogamie sociale qui est très forte. Je pense que tout le monde en a conscience, y compris les différents directeurs de l'ENA. Maintenant, c'est comment on résout le problème.
Mais on voit que c'est dans votre documentaire qu'en fait, on lui a toujours reproché ça. On a toujours reproché à l'ENA cette espèce de déconnexion et ce côté très élitiste. Alors que ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est que c'était pas le but premier de l'ENA et Jean Zay qui... au contraire, voulait en faire une école qui rassemble tous les milieux sociaux.
Absolument. Au départ, l'idée de départ, c'est tout le contraire. C'est un vieux rêve républicain porté par une série d'hommes et de femmes, notamment par Jean Zay, qui dit, et donc là, on est avant que la Deuxième Guerre mondiale n'éclate. Et lui, en fait, ça le choque terriblement. Il est ministre de l'Éducation. Et il voit que tous ceux qui rentrent dans la haute fonction publique, en gros, ce sont des gens qui ont du piston, des relations, des fils à papa, parce qu'on rentre dans la haute administration par le biais de concours particuliers. Chaque administration organise son propre concours. Et en fait, c'est que du réseau. Donc lui, ça le choque terriblement. Il se dit, il a cette phrase qui est magnifique où il dit, on a sa fille, sa propre fille qui témoigne. Et donc Jean Zay disait comment un enfant un fils
a-t-on jamais vu un enfant du peuple devenir ambassadeur?
Ouais. Non. Et donc il dit, il faut créer une école républicaine où tout le monde a ses chances.
Et on en a vu depuis, c'était la question que je me suis posée que vous ne dites pas dans votre documentaire, est-ce qu'il y a eu des enfants du peuple qui sont devenus ambassadeurs?
Il a dû y en avoir. Alors là,
je me suis dit, ça aurait été bien de retrouver des enfants du peuple qui sont devenus ambassadeurs. Est-ce que son rêve s'est réalisé, en fait?
Je pense, après, pas autant, certainement, que ce qu'il espérait, parce que la réalité a rattrapé l'ENA. Et le problème aussi, c'est qu'il est bien en amont. C'est qu'il n'y a pas, et ça à toutes les époques, et peut-être de plus en plus, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'élèves qui viennent de milieux défavorisés, qui ont le niveau pour entrer à l'ENA. Parfois, ils ne savent même pas que ces écoles existent. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents que les autres, ça veut dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas bénéficié
des mêmes
chances.
Ils n'ont pas le circuit et ils n'ont pas le parcours, il n'y a pas cette proposition qui est faite. Mais on voit, moi, ce qui m'a frappé effectivement dans le documentaire, documentaire, ces deux voix, je me suis dit, ils ont tous la même tête. Depuis le début, ils ont un peu tous la même tête. Et puis, Jean-Pierre Chevènement aussi, qui, vous avez des témoignages formidables, celui de Chevènement, celui de François Hollande, qui reviennent sur cette école, qui ont tous été diplômés de cette école. Et donc, Chevènement avait essayé, dans les années 80, de mettre un coup de pied dans la fourmilière.
Oui, Chevènement l'avait fait avec
son livre. Il parlait de ses petits messieurs.
Exactement, voilà. Il parlait de ses petits messieurs et il a écrit un livre qui s'appelle L'énarchie. Et aujourd'hui, on parle toujours d'énarchie. Effectivement, les problèmes, ils étaient déjà là. Le problème de l'enfant du peuple qui devient ambassadeur, c'est aujourd'hui le problème du fils ou de la fille de Gilets jaunes qui rentre à l'ENA. C'est le problème de l'accessibilité. Il faut que, en fait, les élèves de l'ENA soient représentatifs de la société dans laquelle ils vivent.
Je peux ajouter quelque chose sur Jean-Pierre Chevènement. Ce qui est intéressant, c'est que lui, quand il arrive à l'ENA, c'est la fin des années 60, en fait. Ouais. Et lui, c'est un élève boursier. Il est fils d'instit. Ouais. Il vient du Haut-Doy, il vient d'un petit village. Et là, en fait, il découvre, parce qu'il voit que des gens qui habitent dans le 6e arrondissement, qui se connaissent, qui se fréquentent, qui ne sont pas du tout du même milieu.
Alors pour nos auditeurs, nous on a eu la chance de voir ce documentaire. Pour nos auditeurs, Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce.
C'est l'histoire d'une école mythique. Une école connue de tous et qui alimente les fantasmes. L'École nationale d'administration a formé 4 présidents de la République, 9 premiers ministres, des dizaines de ministres et grands patrons. Elle est devenue synonyme de pouvoir. Pourtant, au départ, l'école créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale n'était pas faite pour ça.
Cette école, c'est un idéal d'excellence au profit de la République.
Mais au fil du temps, les énarques incarnent un peu plus ces élites rendues responsables de tout.
Il faudra toujours qu'il y ait des fonctionnaires qui assument leurs tâches. Il faudra toujours qu'il y ait des gens plutôt bien formés qui prennent des décisions.
Je suis opposée à la suppression de l'ENA. Ça reste une école d'excellence. Elle est devenue une école élitiste et donc on peut corriger cet élitisme.
ENA, pourquoi tant de haine ? C'est sur Public Sénat.
C'est Rachida Dati qu'on entendait, qu'on voit dans le documentaire, qui a des propos qui n'a pas fait l'ENA, justement. Et ce qu'on découvre aussi dans votre documentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues, quand même, malgré tout, et que 90% de ceux qui sortent de l'ENA sont dans l'administration avec des salaires relativement raisonnables, on va dire. Bah, qui veut répondre.
Ils n'ont rien à voir avec les salaires du privé. C'est des gens qui, s'ils étaient passés dans le privé, auraient incontestablement gagné beaucoup plus d'argent. Donc c'est un choix. Ouais. C'est le choix du service public. C'est le choix de l'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une visibilité sur certains énarques.
Il faudrait vous rapprocher du micro.
Certains énarques, c'est-à-dire ceux qui rentrent en politique, c'est-à-dire à peu près 3% des énarques. Et puis ceux qui restent, qui pantouflent, en fait, qui partent dans le privé et qui y restent. Et ça représente à peu près 5%. C'est ceux-là qu'on voit le plus et c'est ceux-là qui sont les plus critiqués et souvent les plus critiquables.
Ouais. Est-ce que c'est justifié, ces critiques sur l'ENA ? Et est-ce que la suppression, comme le disait alors Éric Zemmour avec ses mots, mais est-ce que le problème, c'est l'ENA ou est-ce que le problème, c'est plutôt l'administration aujourd'hui et ce qui en a été fait ?
Bien souvent, en fait, l'ENA sert de bouc émissaire. Ouais, et quand on critique l'État, on critique l'ENA parce qu'on assimile finalement l'État au grand corps, c'est-à-dire à ceux qui sortent dans ce qu'on appelle la botte à l'ENA.
J'ai découvert ça personnellement, moi je ne suis pas du tout
familière. Moi non plus, je ne savais pas du tout.
Peut-être qu'on peut l'expliquer pour vos auditeurs, ce qu'est la botte en fait. Il y a un classement de sortie à la fin de l'ENA, donc il y avait
on peut dire, non, puisque
alors il va être maintenu, on ne sait pas trop comment ça va se passer.
Moi j'ai compris hier qu'il Emmanuel Macron ne voulait plus de classement.
Je crois que surtout, ce qui change, c'est que le classement ne permettra plus d'accéder directement au grand corps.
Alors expliquez effectivement la botte.
Alors, jusqu'à présent, voilà ce qui se passait. On rentrait à l'ENA. Bon, déjà, on était ultra sélectionnés, il fallait rentrer. Mais alors, après, quand on sortait, il y avait à nouveau un concours. C'est un peu comme quand on fait des études de médecine. Et en fonction de son classement, on pouvait choisir son corps. Il y a différents corps dans l'administration. Et il y a 3 corps extrêmement prestigieux qu'on appelle les grands corps, qui sont la Cour des comptes, le Conseil d'État et l'Inspection générale des finances. Et c'était un peu la guerre pour y rentrer. Et les 12 ou 15 premiers, ça dépend des années qui y rentrent, c'est ce qu'on appelle la botte, choisissaient quasiment immanquablement ces grands corps parce que derrière, en fait, ils ouvrent des horizons assez fabuleux. On sait que vous êtes les meilleurs. Et ces grands corps, généralement, on n'y reste pas. Ils sont des accélérateurs de carrière très puissants.
Et on y reste pas, mais on peut y revenir. Et c'est aussi ça qui est critiqué. C'est ce qu'on a aussi appelé le pantouflage. C'est-à-dire, on peut partir.
Le pantouflage, c'est quand on part dans le privé et qu'on y reste. Ah, les allers-retours privé-public, à la limite, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est pas mal aussi, à un moment donné, dans une carrière, d'aller voir ailleurs et puis de revenir et d'apporter finalement des compétences acquises à l'extérieur au sein de son école.
Sauf qu'on peut échouer, c'est ce que vous dites dans le documentaire, je sais pas qui le dit. C'est qu'on peut échouer dans le privé, planter une entreprise et revenir au Conseil d'État ou à l'inspection des finances, il y a une forme d'assurance.
Et puis il y a une question déontologique aussi, il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêts.
Moi, je voulais vous demander, Émilie, alors ça, ce n'est pas dans votre documentaire, mais c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'on y apprend, Elena ? Qu'est-ce qui fait que c'est une école différente de polytechnique ou autre ? Et qu'est-ce qu'on y enseigne ? Parce que, personnellement, moi, je ne sais pas ce qu'on y enseigne. Par rapport à une faculté, si je fais l'ENA,
ou une
école de commerce, en quoi je vais être plus intelligent ou plus à même de diriger un pays ? Ou pourquoi je serai une élite ? Parce que j'y apprends quoi, là-bas ?
Alors, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question dans la mesure où on n'a pas fait une enquête. Enfin, c'est pas une enquête sur l'ENA, film.
On va signer un troisième documentaire sur
un film historique. Ouais. Alix a une expertise un peu plus pointue que moi de vraiment ce qu'est l'ENA. Je ne sais pas si tu peux.
Mais moi, je pense que l'élite, elle est vaste. C'est-à-dire que effectivement, il y a une élite administrative qui va sortir de l'ENA,
mais il y a des cours de quoi ? Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors concrètement, d'abord, l'ENA, c'est à peu près 20 mois d'enseignement. Ça veut dire que les gens qui arrivent à l'ENA, ils ont déjà une tête bien faite et une tête bien pleine. Donc les savoirs académiques, ils les connaissent déjà. Donc en fait, ce qu'on y apprend maintenant, c'est du terrain. C'est-à-dire qu'ils vont, commencer par faire un mois de cours et puis ils vont partir immédiatement en stage. Et il y a trois types de stages. Il y a un stage à l'étranger, un stage en entreprise qui se fait en PME et un stage, par exemple, dans le corps préfectoral. Et ensuite, ils reviennent à l'école et il leur reste à peu près, un peu moins d'un an de cours. Et donc là, il va avoir une succession de formations. Et aujourd'hui, il y a un peu tout, il y a des formations scientifiques, un peu comme dans une école de commerce aussi. L'idée, c'est de faire des ENAC de bons managers, mais des managers qui ont le sens de l'intérêt collectif.
L'intérêt collectif et de l'État l'État. Mais c'est Jean-Pierre Chevènement qui dit c'est pas une business school non plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque là que ça devienne, c'est ce qu'on voit
La différence, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait ça se fait aussi les élites. Ce qui compte, c'est le recrutement, c'est-à-dire il faut que ce soit un recrutement large qui soit représentatif de la nation, et deux, il faut que ces élites administratives et le sens de l'intérêt collectif et ne roule pas pour eux. C'est la grande différence.
Est-ce que c'est spécifique à la France ? Est-ce qu'à l'étranger, on a des systèmes pour l'administration, je ne parle pas des grandes écoles, évidemment, il y a des grandes écoles dans tous les pays, mais est-ce qu'il y a des écoles administratives d'administration dans d'autres pays où ils viennent des grandes écoles, en fait ?
Alors, en fait, c'est marrant parce que la détestation qu'on a de l'ENA en France, elle est inversement proportionnel à l'admiration qu'on a dans d'autres pays. Et beaucoup de pays nous envient l'ENA ou ont même des écoles d'application qui ressemblent aussi à l'ENA. En revanche, il y a d'autres pays, si on prend par exemple l'exemple de l'Angleterre ou des États-Unis, où il n'y a pas d'école de formation des hauts fonctionnaires. Donc, qu'est-ce que font les gens ? Eh bien, ils vont dans les grandes universités, mais je ne sais pas si vous avez vu le prix des grandes universités en Angleterre.
Oui, on s'endette pour 10 ans.
Ils s'endettent pour 10 ans. Et c'est ces gens-là qui vont ensuite essaimer en politique, à des postes à responsabilité.
Parce que l'ENA ne coûte rien.
L'ENA, non seulement elle ne coûte rien, mais le principe de toutes ces écoles d'administration, c'est qu'on est payé.
Ah bon ?
Mais c'est la polytechnique aussi, c'est de la même façon.
On gagne
à peu près 1600 euros à peu près. Ouais. Un élève est payé 1600 euros. Mais il faut savoir qu'à l'ENA, il y a des étudiants qui arrivent à 22 ans, mais il y a des gens qui arrivent à 30 ans. Ça veut dire qu'ils mettent des fonctionnaires qui étaient déjà en poste, qui vont mettre leur carrière de côté, qui vont, pour beaucoup, devoir déménager à Paris avec leur famille et qui vont suivre les cours de l'ENA. Donc en fait, oui, il y a une rémunération.
En contrepartie, ils doivent un certain nombre d'années à la haute fonction publique aussi. Ils ne peuvent pas partir comme ça, sinon il faut qu'ils remboursent.
Sinon, il faut qu'ils remboursent. Mais vous le dites encore une fois dans le documentaire, 90% des élèves de l'ENA, des anciens élèves, restent dans l'administration. L'administration. Mais c'est quand même un symbole, ce qu'a fait Emmanuel Macron hier, de dire « je supprime l'ENA ». Réformer la fonction publique en supprimant l'ENA, c'est un petit peu la pointe émergée de l'iceberg.
Oui, parce qu'il aurait très bien pu dire aussi je supprime Polytechnique, parce que si on regarde bien Polytechnique, c'est quand même 400 élèves par promotion, l'ENA, il n'y en a que 80. Il y a moins de diversité à Polytechnique, il y a moins de femmes à Polytechnique, il y a moins de boursiers à Polytechnique. Ouais. Et si on regarde le corps des mines, la plupart, enfin, c'est quand même eux qui alimentent en grande partie les patrons du CAC 40 avec les écoles de commerce. Ouais. Donc, l'ENA, pour moi, c'est quand même un bouc émissaire aujourd'hui.
Oui, c'est un bouc émissaire, pour très clairement.
Mais la détestation, en fait, c'est ce qu'on montre dans le film. Elle s'est portée sur l'ENA parce que les gens qui sont passés par l'ENA et qui sont dans la fonction publique incarnent l'État. Et donc, on les rend responsables de tout. Et puis, c'est vrai aussi que parfois, il y a eu des ratages. On a tous en tête des exemples de certaines directives ou dispositions qui paraissent quand même un peu étranges. Tout ça, ça a fait une image qui correspond seulement en partie à la réalité. Mais le gros des énarques, c'est vrai que ce sont des gens, je pense, qui sont compétents, très dévoués. Ouais.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le manque de diversité à l'ENA, à Polytechnique, il est aussi le même à HEC. Ça vient en grande partie aussi d'une certaine injustice de destin liée au système éducatif français. En fait, l'ENARC, les grandes écoles, Polytechnique, ça arrive en bout de course d'un système éducatif qui est un système qui est fait d'évictions successives. Donc il y a quand même un ratage, et c'est bien avant l'entrée à l'ENA.
Ouais. Quand Éric Zemmour parle des Gilets jaunes, et vous en parlez dans votre documentaire, à la fin de documentaire, ils ont joué un rôle clé dans cette suppression de l'ENA pour vous ?
En tout cas, il y a le calendrier, c'était l'ESCOP. C'est après six mois de crise de Gilets jaunes qu'Emmanuel Macron annonce qu'il va supprimer l'ENA. Bon, d'un autre côté...
C'était un os à ronger pour les Gilets jaunes, vous pensez ?
Peut-être. Les Gilets jaunes n'ont jamais demandé la suppression de l'ENA.
Il a raison.
Vrai qu'il y a un discours anti-élite très fort qui a été notamment porté par les Gilets jaunes, et que malgré elle, l'ENA incarne cette élite. Donc après, on peut faire un lien.
Oui, on peut faire le lien, effectivement, parce que ça faisait partie des revendications des Gilets jaunes, non ? Ou pas ? Non, pas vraiment.
Pas vraiment en tant que tel, parce qu'on a cherché pas mal d'images, nous, justement. C'est ce qu'on pensait, et finalement, on n'a pas vraiment trouvé. Non. Après, en revanche, Macron, lui, Emmanuel Macron sort de l'ENA, beaucoup de gens le savent, et c'est pas forcément... Alors c'est bizarre, parce que à la fois, l'ENA, ça a une image très forte, et tout le monde sait que les gens qui sortent de l'ENA sont des gens brillants. Et puis d'un autre côté, ça s'est aussi parfois vu un peu comme une tare. Et d'autant que dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est passé par le privé très vite après être sorti de l'ENA. Donc ça, certainement, ça a joué cette image de banquier, parce qu'il était chez Rothschild.
Les Gilets jaunes, en fait, ils en voulaient à l'État et ils en voulaient au gouvernement. Ils n'en voulaient pas à une école spécifiquement. Non. Alors après, non, que cette école incarne cette élite, on le comprend, mais c'était Macron qui était attaqué plus directement.
Absolument. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Moi, je l'ai regardé vraiment avec des intervenants très, très précis, très, très spécifiques. On a Jean-Pierre Chevènement, Rachida Dati, qui n'a pas fait l'ENA, François Hollande.
Et on voulait remercier aussi Lina pour ses archives, qui sont épatantes.
Cette image de Valérie Pécresse dans son sac de couchage.
Ah, c'est drôle, mais elle a déjà le même caractère, j'ai trouvé.
Elle était pareille, on la reconnaît bien. Et puis ces images sont formidables, effectivement. Merci à vous, merci à toutes les deux, Émilie Lançon, Alix et Tourneau, d'être venus ce matin.
Vous savez qu'ils vont aller finir leur montage à cause de Emmanuel Macron. Juste après l'émission, il part.
Vous allez changer la fin du film. L'ENA, pourquoi tant de haine sur Public Sénat ? C'est demain soir à 21h et c'est évidemment accessible en replay. Regardez-le parce que vous apprendrez beaucoup de choses et c'est au contraire...
Et c'est pas aride, c'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'au départ, moi j'avais un peu peur de ça. Ouais. Et en fait, pas du tout, c'est assez drôle.
Moi aussi, j'étais très étonnée parce que je me suis dit, bon, je vais le regarder en accéléré. Bah, pas du tout. Je vous le dis, c'est pas... Non, mais je suis très honnête et j'ai été passionnée parce que les images sont très fortes, les intervenants sont bien et on apprend plein de choses sur cette école. Merci à vous.
Merci.
Dans un instant, les livres. C'est important, les livres. À tout de suite.